C'est toujours pour moi une joie de vous retrouver et j'aimerais particulièrement vous remercier pour votre accueil toujours aussi chaleureux qui me donne quelque part de goûter ou de me souvenir de l'accueil chaleureux que notre Dieu nous a offert en Jésus-Christ pour prendre part à la communion au Père, au Fils et au Saint-Esprit. J'aimerais vous remercier pour cela, car c'est déjà pour moi un privilège et un honneur que de vivre cela avec vous. J'aimerais vous transmettre également les chaleureuses salutations de toute l'église de Saint-Maur-des-Fossés, non loin d'ici, 5 minutes en scooter, peut-être 15 à pied. Philippe en a fait l'expérience tout à l'heure, et je le remercie pour sa présence à nos côtés ce matin. Oh, merci. Je vais peut-être essayer tout de suite. Merci, Claire. En 2014, Lee Gareth, un activiste en faveur des droits pour les homosexuels, passe une commande dans une petite boulangerie en Irlande du Nord, précisément à Belfast. Il souhaite un immense gâteau décoré du slogan « Soutenir le mariage homosexuel ». La famille MacArthur, propriétaire alors chrétien de la boulangerie, refuse la commande et rembourse Lee, en précisant qu'ils ne peuvent pas faire un gâteau qui soutiendrait quelque chose de contraire au contenu de leur foi. Poursuivie en justice par Lee, la famille MacArthur a subi une pression immense, médiatique, politique et autres. Mais elle précisa devant les juges une chose très intéressante. Nous n'avons pas décliné la commande parce qu'il s'agit d'un couple de même sexe, mais nous l'avons décliné parce que nous ne voulions pas faire la promotion d'un message avec lequel nous n'étions pas d'accord. Nous ne voulions pas compromettre notre foi. Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Un auteur écrivait que la culture ambiante à laquelle personne ne peut échapper est un rouleau compresseur qui subtilement et dans la durée tend à vous imposer ses croyances, son éthique, sa morale, ses valeurs. La culture ambiante est l'air plus ou moins toxique, ça dépend, l'air plus ou moins toxique que nous respirons tous au quotidien. Et le danger qui s'impose à nous, bien souvent, c'est celui du compromis. Celui du compromis. Comment réagissons-nous au rouleau compresseur qui ne nous permet pas, ou peu, ou plus, d'affirmer que le monde est création de Dieu? Comment réagissons-nous au rouleau compresseur qui ne nous permet peu ou plus d'affirmer qu'un embryon, aussi petit soit-il, est déjà une personne? Ou encore que le mariage est prévu par Dieu uniquement entre un homme et une femme? Comment réagissons-nous au rouleau compresseur qui ne nous permet peu ou plus d'affirmer que publiquement Jésus est Seigneur? Le compromis, je le crois, elle a toujours été dans l'histoire de l'Église et l'un des plus grands dangers qui guette l'Église. Et je vous invite à écouter ce matin ce que Jésus a à dire, parce que c'est cela qui nous intéresse finalement. Qu'est-ce que Jésus a à dire dans une situation où le compromis, où la tentation du compromis est si pénétrante, si présente? Et je vous invite avec moi à suivre la lecture de la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Je ne sais pas si ça va être projeté, mais ce n'est pas grave sinon. Excellent, merci. Il est là-bas, hein ? Oui, c'est ça. Chapitre 2, à partir du verset 12. Et je lis dans la traduction du Semeur, je ne sais pas si c'est celle-ci qui est projetée. Pas forcément. C'est pas grave. À l'ange de l'Église qui est à Pergame, écrit. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon fidèle, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui la reçoit. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. C'est pas mal, je n'avais pas remarqué que ça apparaissait là, le texte. Vous êtes drôlement bien équipés. Nous voilà confrontés, si on va un peu en arrière, confrontés au troisième des sept oracles que Jésus adresse à son peuple par l'Apocalypse. Un rappel à propos de l'objectif global de ces oracles me semble important. Chaque encouragement ou avertissement qui se trouve dans les chapitres 2 à 3 du livre de l'Apocalypse vise à permettre au peuple de Dieu de continuer fidèlement et sans relâche à rendre témoignage à Dieu dans les différentes villes où il se situe, dans les différentes localités. Ça, je crois que c'est l'exhortation globale, le message global qui ressort. Demeurer un témoin fidèle dans les différentes localités. Dans les deux premiers oracles, Jésus rappelle que si nous voulons ensemble rendre fidèlement témoignage au Seigneur sur sa mort ou dans les différentes localités où vous vous trouvez lorsque l'Église est dispersée, nous devons veiller à la pratique de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Oracle à l'Église d'Éphèse. Mais encore, dans le deuxième oracle, faire preuve de persévérance et d'une persévérance sans faille, en comptant sur la grâce de Dieu au milieu des épreuves que la foi en Jésus-Christ peut susciter, engendrer dans ce monde. Ça, c'est le deuxième oracle à l'église de Smyrne. Et ce matin, dans cette même veine missionnaire, je crois que Jésus nous exhorte à refuser le compromis pour signifier auprès de nos contemporains notre allégeance à lui, à Jésus-Christ. Refuser le compromis pour signifier auprès de nos contemporains notre allégeance à lui, à Jésus-Christ. C'est là, je crois, le résumé du message que le Seigneur nous adresse ce matin. Si vous retenez ça, alors j'aurais accompli une partie de mon job. Mais pas que quand même. Et cette attitude de refus du compromis, c'est précisément ce que vivait une majeure partie des chrétiens de Pergame. Mais pas tous. C'est pourquoi le Seigneur va adresser des éloges, faire des reproches, puis finir par un avertissement et des promesses. Éloges, reproche, avertissement, promesse, voilà quel sera notre itinéraire cet après-midi. Éloge, reproche, promesse, voilà. Avertissement, promesse, voilà quel sera notre itinéraire cet après-midi. À Éphèse, Jésus avait dit « Je connais tes œuvres ». À Smyrne, il avait dit « Je connais ta détresse ». Ici, verset 13, Jésus dit « Je sais où tu habites ». Je sais où tu habites. C'est une façon de dire « Je sais à quoi cela ressemble de vivre à Pergame. Je le sais très bien. Je connais le contexte dans lequel tu vis et j'ai conscience de ce qu'implique de vivre en chrétien dans un tel contexte. » C'est quelque part ce que dit Jésus ici. « Je sais où tu habites. » Et effectivement, l'histoire nous raconte qu'il était difficile à Pergame de vivre en tant que chrétien. Et pour mesurer l'ampleur de la pression à laquelle étaient confrontés nos frères et sœurs dans le temps, il faut saisir l'ambiance, l'atmosphère qui y régnait. Au niveau religieux, le contexte était polythéiste. À chaque coin de rue se trouvait un temple dédié à une divinité grecque. Un immense temple dédié à Zeus, considéré comme l'une des sept merveilles du monde, ou aussi belle, surplombait toute la ville de Pergame. Au niveau philosophique, ou façon de penser, ou manières de penser, une multitude de maîtres à penser, déambulaient sans cesse dans les rues, dans l'objectif de faire le maximum de disciples. Au niveau politique, le contexte était oppressant. Pergame était l'épicentre du culte de l'empereur pour toute la province d'Asie mineure. Et si vous aviez été des citoyens de Pergame, vous auriez dû régulièrement venir déposer sur des autels embrasés quelques cailloux d'encens pour rendre un culte à l'empereur, mais sans jamais oublier de confesser César et Seigneur. Sinon, sans quoi, il aurait été difficile d'avoir du travail, difficile de ne pas être pointé du doigt, sans quoi il aurait été même difficile de continuer à vivre. C'était une réalité à laquelle étaient confrontés les chrétiens de Pergame. Alors, saisissant rapidement l'ambiance et l'atmosphère, nous comprenons donc pourquoi Jésus précise, verset 13, « Je sais où tu habites, là où Satan a son trône. La ville était pénétrée et pétrie de faux dieux, de valeurs erronées, d'enseignements qui s'opposaient au Seigneur, aux valeurs de son royaume. Vivre à Pergame en qualité de disciple de Jésus était vraiment, vraiment difficile et franchement challengeant. Et pourtant, dans ce contexte de pression immense, l'Église fait preuve d'une magnifique profession de foi. Elle accomplit son rôle de témoin. Elle accomplit son rôle de colonne de la vérité. Mais encore verset 13. « Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas a été mis à mort. » Quel témoignage. On ne peut que féliciter. Et Jésus félicite. Face au rouleau compresseur de la culture ambiante qui souhaite imposer aux chrétiens son éthique, ses valeurs, ce qu'ils doivent croire, et cela même en usant de la persécution, l'Église a signifié sa foi. L'Église de Pergame a signifié son allégeance à Jésus et à son enseignement. Et Jésus reconnaît que l'Église, en général, tient bon. Nous ne connaissons pas le contexte de mort d'Antipas, mais il ne serait pas étonnant qu'il ait refusé de rendre un culte à l'empereur en confessant non pas César est Seigneur, mais Jésus est Seigneur. C'est là l'affirmation massive du christianisme, de l'Évangile. Avant de confesser un Jésus sauveur, c'est un Jésus Seigneur que nous confessons, et c'est parce qu'il est ainsi qu'il est sauveur. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus le connaît. Mais mieux encore, Jésus le gratifie, cet Antipas, du même titre que lui. Chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, verset 5. Peut-être que Philippe a prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, non? Non? Ou ça va venir, peut-être, je ne sais pas. Il me semblait avoir... Le même titre, Antipas reçoit le même titre que Jésus-Christ au chapitre 1er, verset 5 du livre de l'Apocalypse. Témoin fidèle. L'église de Saint-Maur ici, de la ECM, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Non, oui. ECM. Ouais. Dans son contexte culturel, soumise aux pressions de son temps et de la société dans laquelle elle évolue, serait-elle aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, pardon, gratifiée du titre de témoin fidèle? Dans notre rapport au culte des ancêtres, si présent dans la culture chinoise, est-ce que Jésus pourrait nous gratifier ou gratifier ceux qui vivent au sein de cette culture de témoins fidèles? Dans le rapport à nos parents, est-ce que Jésus pourrait nous gratifier de témoins fidèles de son autorité plutôt que celle de nos parents? Chacun de nous, dans nos contextes différents, sommes soumis à des pressions culturelles similaires à bien des égards, mais aussi différentes. Serions-nous aujourd'hui gratifiés du titre de témoin fidèle par Jésus-Christ? La question se pose. Et seul vous pouvez y répondre pour vous-même. Ou peut-être que votre conjoint pourrait y répondre pour vous aussi. avant toute chose, si nous aussi nous voulons ensemble et individuellement signifier au quotidien notre allégeance à Jésus, en qualité de témoin fidèle, alors je crois que nous devons nous souvenir de qui est-ce qui nous parle ce matin. Qui est-ce qui s'était adressé aux chrétiens de l'église de Pergame et qui est-ce qui s'adresse à nous ce matin? Regardez le verset 12. Regardez le verset 12. « Celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. » Ce n'est pas un Jésus mielleux qui se présente à l'église de Pergame. Et l'image fait plutôt peur. Lorsqu'en Apocalypse 1, verset 16, le rideau qui sépare, le rideau invisible, hein, qui sépare le monde visible du monde invisible, s'est élevé sous nos yeux. Nous avions vu que cette épée à double tranchant sortait, ou nous le verrions, que cette épée à double tranchant sortait de la bouche de Jésus. Et en regardant cela, nous voyons que l'épée est symbole du pouvoir de juger. Sortant de la bouche de Jésus cette épée, nous sommes invités à la comprendre comme étant la parole que Jésus exerce. La parole de Jésus, pardon, qui exerce la justice, édicte des lois, rend son jugement, déclare coupable ou acquitte. Et cela signifie aussi sans doute que son jugement se fonde sur sa parole transmise et en notre possession aujourd'hui dans nos écrits, dans nos Bibles. Autrement dit, lorsque le jugement prend place, lorsque Jésus ouvre la bouche, il n'y a pas de surprise. Il n'y a jamais de surprise. Car ses enseignements nous ont déjà révélé tout cela. Et la révélation de cette facette de Jésus, en qualité de celui qui ultimement a le pouvoir de juger de tout, telle que l'image de l'épée à double tranchant qui sort de sa bouche, a dû être certainement réconfortante, source de réconfort pour les chrétiens de Pergame, autant que source d'inspiration, et peut-être de crainte aussi, ou de vigilance. Car Jésus est en train de leur dire, si sous vos yeux, Rome a exercé par l'épée, en tuant Antipas, son pouvoir de juger, ce n'est pas elle, Rome, qui est juge suprême et possède l'épée, mais moi. Cette image de l'épée qui sort de la bouche est pleinement subversive et rappelle à l'église de Pergame qui a vécu le courroux de l'épée de Rome que ce n'est pas Rome qui est le juge ultime, mais Jésus-Christ lui-même. Et Jésus est en train de nous dire ce matin que si à nos yeux, dans ce que nous vivons nous aujourd'hui, ou subissons, il nous semble que ce soit les magistrats qui exercent le pouvoir de juger, certaines communautés, certaines familles, ou encore les médias, ou encore notre patron, ou encore la bien-pensance à la mode. En réalité, le juge ultime de toutes choses, c'est lui, c'est Jésus. C'est lui qui jugera toute rébellion, c'est lui qui jugera toute idolâtrie, c'est lui qui jugera tout compromis. C'est lui qui jugera quiconque s'oppose à lui. Il possède l'épée à double tranchant. Et c'est en qualité de celui qui exerce le pouvoir de juger, tel que cette image le représente, que Jésus adresse des reproches à son Église, dans les versets 14 à 16. Si Jésus félicite globalement l'Église pour la manière dont elle signifie son attachement à sa personne, néanmoins il condamne certaines de ses pratiques. Verset 14, nous lisons. « Tu as chez toi des gens attachés à l'enseignement de Balaam, attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. » Alors je sais que vous lisez tous les matins au petit déjeuner l'histoire de Balak et Balaam dans l'Ancien Testament, donc c'est pour ça que je me permets de la rappeler. Balak était un roi étranger qui voulait triompher du peuple d'Israël. Se sachant inférieur, il a recruté un devin, un peu ambigu, dénommé Balaam, pour maudire le peuple d'Israël. Or Balaam savait très bien qu'il ne pouvait pas implorer la malédiction de Dieu sur le peuple que Dieu bénit. Il en était conscient. Alors qu'est-ce qu'il fait, ce petit malin ? Pernicieusement, il va suggérer à Balak, le roi, d'apprêter les plus jolies filles de son royaume pour les envoyer en Israël, afin que celles-ci séduisent le peuple et les entraînent à l'idolâtrie ainsi qu'à l'immoralité. Parce que Balaam savait très bien que si le peuple sombrait dans le péché, la bénédiction de Dieu perdait, tombait, et la malédiction frappait. Et depuis ce jour, Balaam est devenu, dans la littérature biblique, est devenu la figure de ceux, des personnes dont l'enseignement conduit au compromis. En d'autres termes, Jésus reproche à l'église de Pergame d'avoir en son sein des chrétiens qui adhèrent à des façons de penser ou à des pratiques qui les conduisent à compromettre la foi qu'ils professent. Mélodie nous a rejoints. C'était en fin septembre ou début octobre 2004, je ne me souviens plus très bien. Le vent soufflait très fort. La miche chez qui j'étais avait une piscine encore remplie, un peu verte, mais non couverte. L'eau n'était vraiment pas très propre, elle commençait déjà à verdir. Or, sur l'eau flottait encore un joli bateau pneumatique, de taille plutôt moyenne. Et une idée que je pensais géniale m'est venue à l'esprit. Pourquoi ne pas monter dans le bateau ? J'étais un jeune enfant. Alors, tout en gardant un pied sur le bord de la piscine, j'ai mis un pied dans le bateau. Vous imaginez déjà la suite. Et tout à coup, une grosse bourrasque, j'habitais encore dans le sud, là où le Mistral souffle très fort, une grosse bourrasque éloigna le bateau, de sorte que je dus rester en équilibre, un temps, mais pas si longtemps que ça, jusqu'à ce que je finisse à l'eau. Cette drôle d'expérience, elle n'était pas très drôle à l'époque quand je l'ai vécue, mais elle a au moins le mérite d'illustrer ce qu'est le compromis. Ce qu'est le compromis. Il s'agit de cette attitude plus ou moins consciente qui nous conduit à croire qu'il est possible d'avoir un pied sur le bord de la piscine, solide, en professant la foi en Jésus-Christ, tout en ayant un pied sur le bateau pneumatique, en s'accommodant à certaines pratiques, modes de pensée et valeurs culturelles qui diluent ou contredisent la seigneurie de Jésus. Et tout cela bien sûr, sans avoir peur de tomber à l'eau. Oui, le compromis, c'est encore cet état d'esprit par lequel nous pensons que Jésus se satisfait d'une vie de disciple durant laquelle nous choisissons ce qui nous intéresse au détriment de ce qui nous coûte, de ce qui est plus exigeant à incarner, à promouvoir ou encore à confesser publiquement aujourd'hui dans notre société. Et tout cela en pensant bien sûr que Jésus ne condamne pas une telle attitude. Jésus condamne le compromis dans l'Église lorsqu'il s'adresse à Pergame. Jésus condamne le compromis. Et je crois que nous faisons face au danger du compromis dans trois grands domaines. Le domaine doctrinal, sans doute, c'est-à-dire en ce qui concerne les vérités cardinales et exclusives que nous révèlent les Écritures sur Dieu, l'Évangile, le moyen de salut. Le domaine éthique et moral. Le domaine des valeurs. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles nous vivons. Ce sont ça les valeurs. Et ce matin, chers amis, je crois que Jésus frappe à la porte de notre vie et nous questionne. Nous tous, et moi le premier. Faites-vous partie de ceux qui acceptent le compromis? Faites-vous partie de ceux qui acceptent l'accommodation? Faisons-nous partie de ceux qui acceptent les concessions malheureuses dans l'un de ces trois domaines, doctrinal, éthique, moral ou des valeurs? Ou sommes-nous plutôt de ceux qui refusent le compromis? Sommes-nous de ceux qui refusent l'accommodation ou les concessions malheureuses? Avons-nous cédé au compromis du pluralisme religieux qui nous laisse penser peut-être que finalement participer au culte des ancêtres bien pratiqué dans nos familles, ce n'est pas bien grave? Avons-nous cédé à l'accommodation d'une sexualité à vomir qui tolère la pornographie ou encore qui tolère la masturbation alimentée de pensées pleines de convoitise? ou encore la pratique d'une sexualité vécue hors du cadre sécurisant qu'est le mariage. La dernière fois, Fouss, dans sa mort, sur un bus, on marche avec mon épouse, et à un moment donné, le bus s'arrête, et qu'est-ce que je vois ? Une image faisant la publicité pour des relations extra-conjugales, sous les yeux des enfants. Préciser, déjà une petite pomme croquée, et préciser, premier site pensé par des femmes. La pression est partout. Elle est partout. Je ferme la parenthèse. Avons-nous cédé au compromis de la joie, du bonheur, de la santé à tout prix, au détriment du souci premier pour la gloire de Dieu, qui peut entraîner souffrance, lutte et tristesse? Ou encore avons-nous peut-être cédé au compromis du silence, alors que la vérité et la justice nous exigeaient de prendre position et de parler? Il faut une sacrée dose de courage, hein, aujourd'hui. Dans quel domaine le rouleau compresseur de notre culture ambiante nous a-t-elle conduit à compromettre notre foi? C'est la question que Jésus nous pose ce matin. Défaut professionnel cet après-midi, pardon. Alors peut-être que nombreux parmi nous résistent au compromis. Peut-être que nombreux ont pris l'habitude de refuser le compromis et de se poser régulièrement la question. Pour cela, qu'est-ce que la Seigneurie de Jésus implique dans tel domaine de ma vie? Ou lors de telles décisions à prendre, familiales, individuelles, personnelles ou familiales, professionnelles? Et je crois que c'est ainsi que se questionne sans cesse le chrétien qui veut refuser l'ambivalence du compromis. Il faut être intentionnel dans la manière dont on se pose des questions. Qu'est-ce qu'implique la Seigneurie de Jésus-Christ dans tel domaine? Dans tel domaine? Dans tel choix? Mais si Jésus frappe à la porte de notre vie ce matin, il frappe aussi et surtout, je crois, à la porte de notre fraternité. Et ça, c'est une donnée presque qui est plus importante dans ce texte que la réalité individuelle. Jésus frappe surtout à la porte de notre Église, à la porte de notre fraternité. Regardez le verset 14. À qui est-ce qu'il s'adresse? À l'Église, tu as chez toi. Tu as toi aussi. C'est à l'Église de Pergame qui s'adresse avant tout en tant que communauté. Dans notre texte, si Jésus dénonce la foi compromise, compromettante de certains chrétiens, la pointe de son reproche s'adresse à l'Église dans son ensemble, qui tolère le compromis de certains de ses membres. Rester inactif lorsque l'attachement au Seigneur est vidé de sens, de sa substance par le compromis dans la vie d'un frère ou d'une sœur, voilà ce que condamne Jésus dans l'Église de Pergame. Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients que l'encouragement a tout autant sa place que l'exhortation, l'avertissement et la réprimande au sein de nos relations fraternelles? L'avertissement, l'exhortation, la réprimande au sein de nos relations fraternelles a autant sa place que l'encouragement. Est-ce une réalité que nous vivons? Quand est-ce que pour la dernière fois, par amour pour un frère ou une sœur, par amour pour le Seigneur, avons-nous osé lui dire, avec tout le tact et la délicatesse que cela nécessite, et c'est pas simple des fois, avons-nous osé lui dire, ton attitude, ton regard, tes gestes, ta façon de penser te pousse, n'est-elle pas à compromettre ta vie de disciple, ta foi? Tolérer le compromis au sein de nos églises. Jésus pourrait-il nous reprocher la même chose aujourd'hui, dans une société où le relativisme nous pousse à ne plus rien dire, ou plus grand-chose? Ce reproche de Jésus nous rappelle notre responsabilité aimante et bienveillante à veiller les uns sur les autres, aussi dans ce domaine. Le faisons-nous? Mais le faisons-nous vraiment? Bien souvent, j'ai du mal à me voir tel que je suis. Tel que je suis vraiment. J'ai du mal à voir lorsque je tiens une position de compromis. Suis-je le seul ? Nous avons besoin les uns des autres. Et qu'on le veuille ou non, je crois que le Seigneur nous invite ce matin à accepter qu'un frère ou une sœur ait la responsabilité d'une partie de notre vie privée. La fraternité ne s'arrête pas lorsque l'on a franchi la frontière, lorsque l'on voit la frontière de la vie privée. La responsabilité fraternelle va au-delà de ce que l'on pourrait penser être la vie privée. Ça ne se regarde pas. Et ça n'a pas bonne presse aujourd'hui. Ça n'a pas bonne presse. La fraternité chrétienne est loin de s'arrêter à une agape du dimanche. Elle nous engage mutuellement dans la vie de disciples des uns et des autres, que ne permettra pas la seule participation au culte du dimanche. On a besoin du regard des autres sur nous, tout comme eux ont besoin de notre regard sur eux, un regard fraternel. Si aujourd'hui nous tenons une position de compromis ou si nous demeurons silencieux et inactifs devant le compromis d'un frère ou d'une sœur, alors écoutez la parole que Jésus nous adresse. Verset 16. Repens-toi. Repens-toi. La repentance, c'est cet appel au changement, cet appel à voir où est-ce que nous mettons maintenant un pied sur le bord de la piscine. Jésus est Seigneur, et un pied dans le bateau pneumatique. Aucune référence à Jésus dans ce domaine de ma vie. Mais c'est encore l'admettre. Et ce n'est pas simple de l'admettre. Mais c'est surtout ne jamais oublier, une fois l'avoir admis, de se confier dans la mort de Jésus-Christ, qui couvre glorieusement tout problème que cause le compromis. Avant finalement d'être à nouveau déterminé à vivre en refusant le compromis pour signifier notre profond attachement à Jésus, notre allégeance à Jésus. Et pour motiver ce type de changement, pour motiver cette repentance, Jésus termine par deux motivations, un avertissement et une promesse. Verset 16, nous lisons. Repens-toi. Sinon, je viendrai à toi et je combattrai ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Jésus s'est présenté au début de l'oracle comme celui qui exerce le pouvoir de juger, annonce qu'il combattra lui-même par sa parole ceux qui vivent dans le compromis et ne veulent pas se repentir. Et je crois qu'il nous faut perdre de vue ou perdre l'habitude de voir un Jésus comme le petit enfant de la crèche. L'avertissement de Jésus ici est de quoi nous faire trembler, si on le prend au sérieux, si on saisit bien comment est-ce que Jésus se présente. Lorsque Jésus viendra juger le monde, il exposera à la vue de tous quiconque aura mené une double vie à cause du compromis. Et il les combattra par le jugement qui sortira de sa bouche. Et chacun subira les conséquences de son compromis et son refus de repentance. Mais Jésus motive aussi notre repentance par une double promesse, verset 17. Certains pourraient parler d'une triple promesse, on pourrait dire beaucoup de choses sur ces deux versets, sur ce verset 17. Mais je me contenterai de quelques remarques courtes pour conclure. Jésus motive aussi notre repentance par une double promesse au verset 17. « Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche, et sur cette pierre est gravé un nom nouveau. » Le vainqueur, thème majeur du livre de l'Apocalypse. Le vainqueur, c'est celui qui parmi nous, en tout cas dans cet oracle-là, refuse le compromis, se repent de celui-ci, mais encore celui qui parmi nous refuse de laisser un membre de l'Église vivre dans le compromis. Et si vous voulez savoir ce qu'est le vainqueur pour l'Apocalypse, relisez les sept lettres et focalisez-vous sur le point central de chacune de ces lettres et vous verrez qu'est-ce qu'un vainqueur dans le livre de l'Apocalypse qui marche dans les pas du vainqueur, qu'est le Christ Jésus lui-même. à nous qui voulons être tous des vainqueurs, je le crois. Et je n'en doute pas. Jésus promet la manne cachée, c'est-à-dire la promesse de participer à la vie. Non pas celle d'aujourd'hui, mais à celle que Dieu inaugurera par le festin des noces de l'agneau lorsqu'il renouvera toutes choses. La promesse de la vie, d'une vie qu'on ne peut même pas imaginer, tant elle sera merveilleuse, tant elle sera magnifique, tant elle n'aura plus le goût amer que le mal nous donne en bouche. Mais il promet encore une pierre blanche, symbole à l'époque d'admission et d'acquittement. En d'autres termes, à ceux qui parmi nous refusent le compromis, osent se repentir de celui-ci, mais encore refusent de laisser un membre de l'Église vivre le compromis, Jésus promet l'admission au sein du royaume qu'il établira sur cette terre. Une admission avec un casier judiciaire vierge devant Dieu en raison de ce que lui-même a accompli. Au fond, c'est de l'espérance chrétienne dont Jésus parle ici. Une espérance dont vous en apercevrez sans doute la réalité alors que vous arrivez à la fin de votre programme de prédication sur le sujet qui parcourt toute l'Écriture, si je ne me trompe. J'espère que vous en serez autant émerveillés que nous, à Saint-Maur, qui parcourons le livre de l'Apocalypse, en sommes émerveillés. C'est de l'espérance chrétienne dont Jésus parle ici. Alors, chers amis, qu'aurions-nous fait à la place de la famille MacArthur? Vous vous souvenez? Ces responsables de la boulangerie. Qu'aurions-nous fait à leur place? Comment réagirons-nous demain, alors que le rouleau compresseur de notre culture ambiante nous presse, nous séduit, nous attire pour compromettre notre foi? Pour nous accommoder à ses pratiques, son éthique et ses valeurs. Comment réagirons-nous cet après-midi? Jésus nous exhorte à refuser le compromis auprès de nos contemporains pour signifier notre attachement à lui. Refuser le compromis pour signifier auprès de nos contemporains notre allégeance, notre attachement à lui. C'est là ce que le Seigneur nous adresse. C'est vers lui que nous devons nous tourner pour lui demander son aide. Maintenant, je vous invite à la prière. Si à l'église de Pergame, notre Dieu, notre Père, tu disais que c'est là où Satan habite, dans une certaine mesure, nous pouvons le penser aussi pour nous aujourd'hui qui vivons au sein de cette culture. Toi-même, tu sais, notre Dieu, qu'il est difficile d'incarner aujourd'hui les valeurs de ton royaume dans notre société. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, il est difficile de ne pas être bousculé, chamboulé, pernicieusement incité, invité à épouser les valeurs de notre société. Ô combien nous te sommes reconnaissants, individuellement et communautairement, de ce que tu nous alarmes ce matin. Tu aiguises notre vigilance. Tu nous invites à veiller et surtout à refuser le compromis. Accorde-nous toute la perspicacité, l'acuité spirituelle pour voir lorsque nous en sommes tout proches, lorsqu'un frère ou une sœur en est tout proche, afin qu'ensemble nous puissions nous aider. Et si nous sombrons, notre Dieu, notre Père, garde-nous de fuir et permets-nous toujours de courir vers le Christ qui a glorieusement couvert tous nos compromis et qui souhaite les couvrir encore aujourd'hui. Quiconque parmi nous se repent. Nous tournons vers toi avec reconnaissance pour cela et dans l'espérance et la certitude que tu nous accorderas ton secours pour résister, pour faire face et porter haut l'étendard du royaume de Dieu auprès de nos contemporains, pour notre plus grand bien et ta plus grande gloire. Amen.